Voilà. Plaisir de vous voir, plaisir d'être ensemble. Une dernière minute, on ne pensait pas effectivement que ce dimanche 29 novembre, on aurait déjà l'occasion de se retrouver. On tablait plutôt sur la semaine prochaine. Donc voilà, juste le temps de préparer une petite prédication hier et commencer par une question, même toujours pareil. Qu'est-ce que nous avons vécu ce dernier mois les uns les autres? Qu'est-ce que nous avons vécu ce dernier mois? Est-ce qu'on a vécu que des belles choses sur ce mois de novembre 2020? Coup-ci, coup-ça, hein, dans l'ensemble. Hein. Un nouveau confinement pour tous, voilà, avec du télétravail plus ou moins forcé. L'annulation à dernière minute de notre chouette week-end vitalité qu'on aurait dû avoir il y a quasiment un mois. La Covid pour Chantal Thierry, pour Bernardo, pour la famille Laha au complet, un rétablissement un peu compliqué pour Ali, la détresse sociale d'une personne, Carmen, un deuil pour Baptiste vis-à-vis de son grand-père, un aller-retour en urgence à l'hôpital pour Adam, et je suppose en oublier. Je trace un tableau un peu noir de ce mois-ci, mais en posant la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas plus simple quand on est enfant de Dieu? Quand on appartient à Dieu, pourquoi les choses ne sont pas plus simples que ce dernier mois? Pourquoi toutes ces épreuves? Ce matin, je vous propose une courte méditation que j'ai eu le temps de préparer sur Ésaïe 43, les 8 premiers versets, un texte donné à Israël au cœur de l'exil, au cœur de l'épreuve. Et Tom, ce matin, tu disais, c'est comme si on avait été en exil pendant un mois. Ben voilà un texte, Ésaïe 43, donné par Dieu à Israël en plein exil. Et je vais lire donc les 8 premiers versets dans la version second 21. Vois maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom et tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je t'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place. Verset 4, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi, je ramènerai ta descendance de l'Est, je te rassemblerai de l'Ouest, je dirai au Nord, donne, et au Sud, ne retiens personne, ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné et que j'ai fait. Fais sortir le peuple aveugle qui pourtant a des yeux et les sourds qui pourtant ont des oreilles. Deux petites idées ce matin à retenir de ce texte. Deux petites idées. La première, c'est que mieux que l'absence d'épreuve, Dieu nous promet sa présence dans l'épreuve. Première idée que l'on va voir. Deuxième idée qu'on va voir, c'est que l'amour de Dieu n'est pas qu'un amour mieux que des belles paroles, des beaux discours, mais c'est un amour rédempteur et sauveur. Deux idées, deux parties. Donc, première partie, première question. Est-ce que Dieu, dans ce texte que vous avez lu, est-ce que Dieu promet à son peuple l'absence de problèmes, l'absence d'épreuves, l'absence de galères? Est-ce que c'est ça qu'il promet en Ésaïe 43? Alors, je ne vois pas vos bouches, mais je vois juste les yeux. Donc, il faut être plus expressif si vous devez me faire passer des messages subliminaux. Est-ce qu'appartenir à Dieu signifie être épargné des problèmes? Ça serait. Une première réponse se trouve dans la formulation même des versets 2 et 3. Vous l'avez vu? Si tu traverses de l'eau, blablabla, si tu marches dans le feu, alors là là. Donc déjà, rien que cette formulation grammaticale signifie à minima que ce genre de situation va arriver. Si, quand ça va arriver, alors à minima. Ça nous fait penser à Matthieu 7, les enfants, Vous connaissez la chanson, le passage, la pluie qui tombe sur la maison, le vent qui tombe sur les deux maisons. Peu importe que la maison soit sur le roc ou sur le sable, le vent souffle et la pluie tomba sur les deux maisons. Une seconde réponse à la question « Est-ce que Dieu nous promet l'absence d'épreuves ici dans ce texte ?» Une seconde réponse se trouve dans le contexte même d'Ésaïe 43. Et vous savez que ce qui donne la force à un texte, c'est son contexte. Et le contexte d'Ésaïe 43, il faut se rappeler vers un petit prophète qui s'appelle Habacuc. Vous connaissez ? Quelle coïncidence, Habacuc ! Est-ce que quelqu'un se souvient, quelqu'un peut reformuler le message d'Habacuc en quelques chapitres ? Le juste vivra par la foi, le verset officiel de Kevin. Chapitre 1, on l'avait vu avant le confinement. Chapitre 1, le début, Dieu est corrompu et ne suit plus Dieu. Je me suis trompé. Israël est corrompu. Hop, 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 la bêtise que je viens de dire. Israël est corrompu et ne suit plus Dieu. Ça, c'était le début, première étude qu'on avait faite. Deuxième étude, Dieu ne peut se satisfaire de ce mal et de cette situation, et il ne peut tolérer l'idolâtrie, le mal au sein de son propre peuple. Donc il envoie qui ? Les Babyloniens, qui sont certes pires qu'Israël, mais n'empêche qu'il envoie les Babyloniens pour juger son propre peuple. Chapitre 2, après la fin du chapitre 2, qu'on a vu avec Jean avant-hier, mercredi soir, Dieu jugera en son temps Babylone, et le mal commis par Babylone est comme un boomerang qui finira par revenir à Babylone. Et chapitre 3, suspense, parce que c'est dans 10 jours. Donc, suspense, chapitre 3. N'empêche que rien qu'avec ces chapitres 1 et 2 d'Habacuc, au moment où Ésaïe écrit ce chapitre 43, on est en plein milieu de cet exil que Dieu avait annoncé à travers Habacuc, et qui finalement est arrivé. Babylone est effectivement à attaquer et déporter. Donc ce qu'on lit dans Habacuc, ça s'est vraiment réalisé. Et dans Ésaïe 43, on est en plein dedans. Donc Israël, à ce moment-là, il est au beau milieu de ce fameux exil, au beau milieu de l'épreuve, et une situation bien plus critique que toutes nos galères réunies qu'on a listées en début là. Israël, c'est vraiment une situation bien pire que nous réunis. Donc Dieu, à travers Ésaïe, n'est pas en train de promettre à son peuple l'absence d'épreuves. Celui-ci est justement en plein dans une épreuve. Et pire que ça, cette épreuve-là, en plus, elle vient même de Dieu. Et c'est Dieu qui a choisi, qui a envoyé cet exil et cette déportation. Première application, avant d'aller plus loin. Première application, ne soyons pas déstabilisés par ce qui peut arriver aux uns aux autres. Oui, il y a des difficultés. Oui, un tel est malade. Oui, un tel a telle difficulté. Mais ne soyons pas déstabilisés. Ces différentes épreuves ne sont pas un signe d'abandon, de malédiction ou d'erreur de notre part. Dieu nous a prévenus ici-bas que nous aurions à traverser l'eau, à traverser le feu, et que la pluie tombera sur nos maisons et que le vent soufflera. Alors certes, évidemment, nous aspirons et nous soupirons après un monde renouvelé sans épreuve ni douleur. Et cette espérance, elle est légitime. Toute la création même soupire après cela. Romains 8. Et cette espérance, on sait très bien qu'elle prendra fin le jour où Dieu recréera un monde renouvelé. Alors cette fois-ci, sans eau à traverser, sans feu à traverser, sans deuil, ni larmes, ni virus. Et ça, c'est seulement quand on arrivera à Apocalypse 21. Mais tant qu'on n'est pas à Apocalypse 21, c'est pas grave ici. Par contre, ici-bas, si Dieu ne nous promet donc pas l'absence d'épreuves, il nous promet mieux que cela, il nous promet sa présence et son secours. Verset 5, est-ce que quelqu'un peut nous le relire, ce verset 5, le début, magnifique ?
Sois sans crainte, car je suis avec toi.
N'aie pas peur, sois sans crainte, car je suis avec toi, je suis moi-même avec toi. Waouh! Si moi je vous fais cette promesse, Paul le plaît, bon, ça vaut pas grand-chose, hein. Par contre, si c'est le Dieu de l'univers, le véritable seul Dieu, le Dieu tout-puissant qui vous fait cette promesse, alors là, ça change un peu le poids. Rémi, j'ai une situation pour toi. Si tu es coincé en haut d'une haute montagne, il fait froid, il fait nuit, le vent arrive, et que c'est ta mamie qui te promet qu'elle vient te chercher. Bon, c'est gentil, ça fait plaisir, mais bon, je pense que la nuit va être compliquée. Par contre, si c'est le PGHM, peloton de gendarmerie des hautes montagnes, si par contre c'est le PGHM qui te promet qu'il se met en route et qu'il va te chercher, alors là, c'est plutôt bon signe. Et c'est mieux parti, n'est-ce pas? La valeur d'une promesse dépend de la personne qui le dit. Paul le plaît, la mamie, le peloton de gendarmerie, ou alors mieux même que le peloton de gendarmerie de haute montagne, le Dieu de l'univers, le Dieu lui-même. Et c'est bien ça d'ailleurs, et Dieu, en donnant cette promesse, juste avant, verset 3, il rappelle qui il est pour donner de la force à cette promesse. Il dit bien, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Ok, on a bien compris qui est Dieu. Et alors, n'aie pas peur, je suis moi-même avec toi. C'est la plus belle des promesses que l'on peut avoir, le plus beau des cadeaux de Noël, même si on n'est pas en décembre, même si certaines ont déjà mis des pulls de Noël, c'est le plus beau des cadeaux de Noël que l'on peut avoir. Alors, fin de première partie, dans tout ce que nous vivons les uns les autres, dans tout ce que nous avons pu vivre les uns les autres comme difficultés, entre Covid, entre deuil, entre solitude, entre confinement, nombreux sont d'entre nous, on l'a eu pendant nos Zooms le mercredi soir, nombreux sont ceux qui ont pu témoigner du soutien et de la présence de Dieu à travers cela. Et dans ce sens-là, Dieu a été fidèle à ce qu'il avait promis. Dieu a été fidèle et il le restera toujours à ce qu'il a promis. Quelle joie de voir Dieu tenir ses promesses, de répondre présent, même au cœur de l'épreuve. Merci Seigneur. Deuxième idée, deuxième partie. Dieu est donc avec Israël, même lors de son exil, tout là-bas, loin à Babylone. Et l'amour de Dieu, il transpire des versets qu'on a lus. Hein. On dirait même une lettre, une déclaration d'amour, une belle lettre. Mais l'amour de Dieu ne consiste pas seulement en des belles paroles, en une belle lettre d'amour, en des envolées lyriques, mais il se concrétise et conduit à une délivrance et un salut. C'est pas seulement des mots, mais ça arrive à quelque chose. Dieu, dans sa puissance, ordonne que son peuple ne soit plus déporté, mais rassemblé depuis la terre entière. L'exil prendra fin. Verset 5, « Je ramènerai ta descendance de l'Est, je te rassemblerai de l'Ouest, je dirai au Nord, donne, je dirai au Sud, ne retiens personne. » Personne ne peut s'opposer à Dieu. Israël pourra bientôt revenir chez lui à Jérusalem, et même la grande Babylone qu'on avait vue dans Habacuc 1, même la grande Babylone ne pourra pas s'opposer quand Dieu décidera de ramener son peuple. Voici ce que dit l'Éternel, verset 14, sur Ésaïe 43. Celui qui vous rachète, le Saint d'Israël, dit « À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais couler tous les fuyards, même les Babyloniens, sur leurs bateaux dont ils sont fiers. » Ça ne vous rappellerait pas Habacuc 2 par hasard, avec le fameux boomerang du mal? Un petit peu, hein? La parole de Dieu est magnifique. Ce que précise plusieurs fois Dieu à travers Ésaïe 43, c'est que cette délivrance, ce salut pour Israël, sera comme un rachat. Vous avez trouvé le mot il y a plusieurs fois, comme un rachat, comme une rédemption. Un rachat avec une sorte de paiement, une sorte de rançon. Un peu, vous savez, comme les otages, des fois, sont libérés, on apprend plus ou moins qu'il y a une rançon, un paiement qui a été fait. Et ici, on trouve plusieurs fois le mot « je vous rachète, je donne des hommes à ta place, je donne des pays en rançon à la place de ta vie ». On le voit plusieurs fois dans le texte que l'on a lu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, on est dans un contexte plutôt d'esclavage que d'otage. Aujourd'hui, on connaît plus ce côté de rançon dans un contexte de libération d'otages, plus que de changement d'esclaves. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour Israël? Qui est la rançon pour Israël? On voit ça au verset 3 et 4, mais d'abord, comme promis, donc on l'a vu, Habacuc, de la grande Babylone, qui détenait une partie du peuple juif, est tombée, a fini par tomber, le fameux boomerang, et est passée sous domination des Perses. Donc les Babyloniens qui avaient ramené les Juifs chez eux, les Perses arrivent et Babylone passe sous contrôle perse. Et c'est le roi des Perses, Cyrus, qui signe le fameux décret pour autoriser le retour d'Israël à Jérusalem. On voit cela en Esdras 1, avec le fameux édit de Cyrus. Et pour remercier Cyrus et le peuple perse, Dieu va leur accorder la victoire, non seulement sur Babylone, mais sur d'autres pays, l'Égypte, l'Éthiopie, Saba, donc toute une partie de la corne de l'Afrique. Et la Syrie va devenir le plus grand, à ce moment-là, la plus grande puissance régionale. On voit ça au verset 3. Israël a été délivré, certes, mais maintenant c'est l'Égypte et l'Éthiopie qui se retrouvent à leur tour sous domination étrangère, perse en l'occurrence. Et c'est là qu'on comprend le verset 4, que je relis. « Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, alors je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. Je ne me contente pas de faire des beaux discours, je ne me contente pas de faire des beaux versets, mais je donne des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. » Ça, c'est une déclaration d'amour. Et une déclaration d'amour envers un peuple pourtant qui est bien imparfait. Hein. On ne parle pas voilà, vous l'avez vu au verset 8. Hein. Verset 8, vous êtes un peuple avec des oreilles qui n'entendaient rien. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez rien. Et pourtant, Dieu fait une déclaration d'amour à ce peuple-ci. Conclusion. Heureusement que l'amour de Dieu envers nous ne dépend pas de nous, mais dépend de Dieu. Nous ressemblons bien souvent à ce peuple avec des yeux défaillants et des oreilles endurcies. Qu'est-ce que cela nous dit, tout cela? Qu'est-ce que ça nous préfigure, c'est Magali?
Non, c'est son téléphone.
Oui, c'est le téléphone de Magali. Qu'est-ce que cela nous dit, qu'est-ce que cela préfigure? Ésaïe 43 préfigure une délivrance à venir bien plus grande, une rédemption bien plus grande. Bien plus grande, mais sur le même principe. Bien plus grande, mais sur le même principe. Celui d'un amour, non seulement avec des mots, mais d'un amour qui arrive à des actes concrets, en l'occurrence, Noël, avec l'incarnation physique du Fils de Dieu. Et sur le même principe, celui de la rédemption, du rachat, en l'occurrence de Jésus, mort à notre place sur la croix, c'est Pâques cette fois-ci, telle une rançon donnée pour notre salut. Alors pour les amateurs de théologie, on parle ici d'une typologie de substitution. La substitution, l'Égypte à la place d'Israël, Christ à notre place. C'est une rançon, une substitution dans la condamnation. Au-delà de ces points de vue théologiques, d'un point de vue pratique, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que si vous cherchez à vous émerveiller de l'amour de Dieu, et je pense qu'on veut tous le faire, si vous cherchez à vous émerveiller de l'amour de Dieu, ne regardez pas à vous-même. Ne regardez pas à vous-même, ne vous contentez pas de compter les bénédictions dans votre vie pour déterminer si oui ou non combien est grand l'amour de Dieu pour vous. Ce n'est pas en regardant notre nombril que l'on peut contempler l'amour de Dieu dans toute sa grandeur. Si vous voulez vous émerveiller de l'amour de Dieu, regardez à Christ. Pas besoin de chercher plus loin. Pas besoin de je ne sais quoi. Regardez à Christ. Et n'écoutez pas. N'écoutez pas toute personne qui vous inviterait à vous émerveiller de l'amour de Dieu en regardant ailleurs qu'au Christ mort et ressuscité. Romains 5, verset 8. Voici comment Dieu nous prouve son amour envers nous. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Si vous voulez vous émerveiller de l'amour de Dieu, regardez nulle part ailleurs qu'au Christ mort et ressuscité. Et alors que nous commençons la période de l'Avent, qui précède Noël, ne cessons pas de... Continuons à nous réjouir encore et encore de l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. Et Ésaïe 40, on est actuellement dans les petits plans de lecture que vous avez au mois de novembre-décembre, on est dans effectivement Ésaïe, et Jésus est effectivement ce fameux serviteur, dont entre le chapitre 40 et 60, ce fameux serviteur souffrant, promis par Dieu, Jésus sera ce serviteur, et c'est exactement tout ce qui est au cœur de Noël. Et on va bientôt avoir la joie de pouvoir le fêter ensemble, en famille. En conclusion, chers amis, chers frères et sœurs, en conclusion, un passage assez court, mais très riche, qui nous parle de la présence de Dieu au cœur de l'épreuve, plus précieux que tout le reste. Dieu est avec nous au cœur de l'épreuve. Et un très beau texte qui nous parle d'un amour non seulement virtuel, non seulement avec des mots, mais un amour concret, rédempteur, qui préfigure la venue de Jésus, qui a donné sa vie à notre place. Que faire de cela ? Que faire de cela ? En conclusion, louer le Seigneur, bien sûr, verset 21, vous l'avez vu, « Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. » Donc oui, on peut effectivement exprimer notre reconnaissance à Dieu, on va avoir l'occasion tout à l'heure de le faire, avec des cantiques, on en a encore quelques-uns. Oui, on veut rendre gloire à Dieu avec des cantiques et des louanges. Mais je pense que ce texte nous pose surtout une autre question. Une question combien pratique, et cela sera ma dernière application avant de finir. Puisque l'amour de Dieu envers nous n'en est pas resté à de simples belles paroles, à de simples beaux discours, ça nous pose une question à nous en retour. À quoi ressemble notre amour pour Dieu ? Comment aimons-nous Dieu en retour ? Seulement en parole ? Seulement en pensée ? Un amour virtuel sur Zoom ? Ou alors un amour avec des actes, un amour avec des qui se traduit dans nos priorités, dans nos choix, dans nos vies transformées. Si Dieu ne nous a pas aimés seulement d'un amour virtuel, en retour, comment aimons-nous Dieu ? Par exemple, au moment de devoir faire un choix, peu importe, au moment de devoir pardonner quelqu'un ou non, au moment de devoir choisir entre deux priorités, l'une moins prioritaire que l'autre. Au moment de choisir si oui ou non je vais lire ma Bible aujourd'hui. Au moment de choisir que faire de mon temps libre ce soir. Au moment de choisir est-ce que oui ou non je vais résister à telle ou telle tentation. Au moment de choisir entre le chemin de la facilité et peut-être un chemin qui me coûte un peu plus. Au moment de choisir de mourir à soi-même, ou alors non, de ne pas mourir par soi-même. À ce moment-là précis, à quoi ressemble notre amour pour Dieu ? Un amour virtuel ou un amour réel ? Seulement des belles paroles ou alors une vie transformée ? Voilà la question que ça nous pose et avec laquelle je voudrais vous laisser. On l'a vu il y a 10 jours sur Zoom avec Jérémy Biancheri. C'est bien dans des vies transformées que Dieu prend plaisir. On avait lu ensemble ce beau passage de Romains 12. Je vous encourage, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Oui, en conclusion, donc l'amour de Dieu envers nous n'en est pas resté un amour virtuel. Qu'en retour, le nôtre puisse en être de même. Ma prière, c'est que Dieu nous apprenne à toujours plus nous appuyer sur sa présence, à ne jamais douter de lui au cœur de l'épreuve et à toujours plus nous émerveiller de son amour manifesté en Jésus-Christ. Ma prière est également qu'il nous apprenne à avoir également envers lui un amour concret, réel qui transforme nos vies. Amen.